RTL Info.
Le journal Jean-Paul Pitchy.
Bonsoir. Le canton de Neuchâtel débloque 55 millions de francs pour les entreprises en difficulté. À la suite des nouvelles mesures sanitaires décrétées par le Conseil fédéral, le Conseil d'État a augmenté la somme dévolue au cas de rigueur et simplifié la procédure. Une école de recrue très spéciale a démarré aujourd'hui. Près de 5000 jeunes Suisses ont commencé leur armée à distance. Pandémie oblige. Un homme violent échappe à la case prison. La justice neuchâteloise n'a pas retenu la contrainte sexuelle et le viol dont il était accusé. Nuit hivernale mais sans précipitation. Demain, bande grisaille possible par endroits, sinon des conditions relativement lumineuses entre soleil et nuages. L'État de Neuchâtel au chevet des entreprises. Le canton va débloquer 55,5 millions de francs pour les cas de rigueur. À la suite des nouvelles mesures sanitaires du Conseil fédéral qui a décidé de fermer les commerces non essentiels, le Conseil d'État renforce donc son soutien. Les aides seront aussi plus simples à obtenir. Les précisions de Yann Esler.
Le département de l'économie a annoncé que le budget alloué au cas de rigueur va passer de 22,2 à 55,5 millions de francs. Dans cette manne, presque 43 millions proviennent de la Confédération, alors que le canton se charge de 12,6 millions. Critiqué, le processus d'octroi des aides sera lui aussi simplifié. Le ministre neuchâtelois de l'économie, Jean-Nat Caracache.
La simplification qui a été décidée par le Conseil fédéral dans les critères qui étaient posés précédemment, eh bien, nous permet de mettre en place un mécanisme qui est plus efficace et plus rapide. Ça va passer par des demandes qui seront traitées de manière un petit peu différente pour les établissements qui subissent des décisions de fermeture par rapport à ceux qui entrent dans le dispositif parce qu'ils ont eu une grosse perte de chiffre d'affaires en 2020. Donc on a vraiment deux canaux séparés.
Comme prévu par le Conseil fédéral, les entreprises ayant subi une fermeture forcée pendant plus de 40 jours depuis le 1er novembre 2020 bénéficieront donc des aides. On écoute le chef du service de l'économie, Jean-Claude Touly.
Soit vous êtes un entrepreneur ou vous êtes un secteur d'activité qui a été fermé d'autorité, c'est le cas par exemple de la restauration, des fitness, ou alors vous n'avez pas été obligé de fermeture mais vous subissez des pertes indirectes. En tout cas, vous êtes entravé dans l'exercice finalement de vos affaires. Dans le premier cas de figure, donc, nous prendrons en charge 24% du chiffre d'affaires mensuel moyen des années 2018-2019 par mois de fermeture de l'établissement avec un effet rétroactif au 1er novembre. Donc concrètement, si vous êtes un restaurant qui fait un chiffre d'affaires de 100 000 francs, eh bien, vous aurez 8%, donc pour les fermetures des mois de novembre, décembre, janvier et février, avec un plafond maximal à 40 000 francs par mois pour les plus grands établissements.
Mais ils ne seront pas les seuls. Les entreprises qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 40% pendant l'année écoulée seront aussi indemnisées avec un plafond. On retrouve le chef du service de l'économie, Jean-Claude Touly.
Si vous avez été forcé de fermer, vous donc devez cette fois prouver une baisse de chiffre d'affaires de plus de 40%. Et là, vous pourriez être indemnisé à hauteur de 4 à 10% de votre chiffre d'affaires annuel en proportion de la baisse du chiffre d'affaires que vous aurez. Donc, ça veut dire que vous aurez un soutien de 4% pour une baisse de 40% du chiffre d'affaires et qui peut aller jusqu'à 10% à partir de 60% de baisse de chiffre d'affaires.
Cette manne et ces mesures ont été accueillies avec soulagement, notamment par la branche de l'hôtellerie-gastronomie. On écoute la coprésidente de Gastro-Neuchâtel, Caroline Juira.
Il y a en fait aujourd'hui une petite lueur d'espoir pour le sauvetage de nos entreprises neuchâteloises. Bien qu'il faut le souligner, ça ne couvre pas ce qu'on demandait complètement, c'est-à-dire la participation à la totalité des charges fixes pour nos entreprises. C'est un gros montant, c'est difficilement quantifiable par rapport au nombre d'établissements éligibles parce que le gâteau qui était disponible auparavant, il se réduit avec la fermeture obligée des commerces jugés non essentiels à ce jour. Donc il faut avoir un petit peu de recul et voir concrètement le montant attribué à chacune des entreprises éligibles à cette toute nouvelle aide urgente au cas de rigueur.
Le canton a finalement aussi profité de faire le point sur les chiffres. En tout, les aides à fonds perdus se sont montées à 420 millions de francs en 2020 et les prêts sans intérêt à 310 millions. 6 000 entreprises et indépendants ont bénéficié de soutien. Et pour le dernier chiffre, ce ne sont pas moins de 2,5 millions de francs d'aide qui ont été dépensés par jour depuis le début de la pandémie, et ce, par le canton.
À savoir encore que la procédure pour obtenir les aides d'urgence prend 15 ou 25 jours en fonction du régime auquel sont soumis les entreprises. Sur le front de la pandémie, la situation continue de s'améliorer en Suisse. 4703 personnes ont été testées positives au Covid-19 sur les trois derniers jours, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique publié aujourd'hui. Le taux de positivité s'élève à 9,8%. Quant au taux de reproduction, qui a un délai d'une dizaine de jours, il est de 0,81 en moyenne nationale. Le vaccin contre le coronavirus fait beaucoup parler de lui. Certains pointent du doigt les effets secondaires possibles. Mais en cas de problème, qui est responsable ? Alexandre Michler fait le point sur la question.
En cas de dommages causés par un vaccin, plusieurs parties peuvent être tenues responsables. C'est ce qu'explique l'Office fédéral de la santé publique dans son dernier bulletin. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on parle de dommages graves, cela ne désigne pas les effets secondaires habituels d'une vaccination, comme par exemple des rougeurs ou des maux de tête, mais un préjudice à plus long terme. Parmi les personnes pouvant être tenues responsables, il y a tout d'abord le médecin ou le pharmacien qui administre le vaccin. Ce dernier est tenu d'informer le patient de la nature et des risques de la vaccination afin qu'il puisse donner son consentement éclairé. Le devoir de diligence du praticien couvre également l'administration correcte du vaccin. En cas de vaccination recommandée ou ordonnée par les autorités, la Confédération peut aussi être tenue responsable. Elle peut accorder, après un examen au cas par cas, une indemnisation ou une réparation morale d'une valeur maximale de 70 000 francs. Enfin, dernier responsable possible, le fabricant du vaccin. Il doit répondre aux dommages lorsqu'un produit est défectueux. A noter pour terminer que selon l'OFSP, les effets secondaires sévères consécutifs à des vaccinations sont très rares.
C'est le début d'une expérience hors du commun pour les nouveaux conscrits de l'armée suisse. Ce lundi, près de 5000 recrues ont commencé leur service militaire depuis leur maison en raison de la pandémie de Covid-19. Avec un faux départ pour ce service à distance, une panne informatique s'est produite en début de journée avant d'être résolue dans l'après-midi. Parmi les personnes concernées par cette expérience inédite, la recrue Dario Beglin, le Neuchâtelois pointe le manque de suivi de cette instruction qui se déroule en ligne via une plateforme dédiée Dario Beglin.
Le non-suivi des cours est un peu étonnant, je dois avouer. Je pensais qu'il y aurait un suivi qui serait fait chaque jour et du coup, ça aurait été aussi un peu plus simple pour nous de nous motiver. Mais ensuite, toutes les personnes qui font l'école de recrue sont des adultes et sont censées pouvoir avoir un minimum d'autodiscipline, en tout cas pour suivre les enseignements qui sont donnés, quoi.
De son côté, l'administration militaire a dû prendre des décisions inédites. S'il est impossible de remplacer les moments de camaraderie qui marquent le service, l'armée n'a pas renoncé pour autant à garder le contact avec des moyens de communication modernes. Le commandant d'école d'aviation 81, le colonel EMG Alexandre Villy.
Alors nous, on l'a pris en considération, c'est-à-dire que la camaraderie, c'est essentiel pour nous, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, c'est la situation est très, très spéciale, on est d'accord, on a dû s'adapter par rapport au coronavirus. On est en contact avec eux via le LMS, via cette plateforme d'échange, ils ont un chat, ils ont aussi le numéro de l'école. Donc, avec nous, ils peuvent avoir le contact. On cherche le contact aussi de manière proactive. Maintenant, je pense que c'est aussi une chance pour eux d'entrer dans la vie militaire avec un peu plus de calme. Ils auront déjà des connaissances supplémentaires, ce qui fait que quand ils auront chez nous, ils comprendront le système.
Des propos recueillis par Lucien Ferreno. Les recrues à la maison commenceront leur service en caserne dans 3 semaines, le 8 février, et goûteront ainsi à une expérience de milice plus traditionnelle. Du sursis pour un individu violent, le tribunal criminel a rendu son verdict cet après-midi à Neuchâtel à l'encontre d'un homme de 39 ans accusé de multiples infractions. Au final, l'accusé écope d'une peine de 23 mois avec sursis pendant 5 ans. Il a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants, de séjour illégal, mais surtout de lésions corporelles, de contraintes, de menaces à l'encontre de 2 anciennes compagnes. Sonia Bernauer-Mia, vous avez assisté à la lecture du jugement.
Oui, l'accusé a été reconnu coupable d'avoir frappé l'une de ses ex-compagnes à plusieurs reprises. Le juge a aussi estimé qu'il avait entravé la liberté d'action de ses compagnes en exerçant notamment un contrôle sur leurs relations extérieures. Il a dépeint un homme qui suscite un sentiment généralisé de peur dans son entourage, un homme au double visage capable de violents accès de colère passagers. En revanche, le juge n'a pas retenu la contrainte sexuelle et le viol. Les déclarations considérées comme changeantes des victimes ont suscité un doute doute qui profite à l'accusé. Et s'il échappe à la prison, l'homme a toutefois l'interdiction d'approcher à moins de 200 mètres ou de contacter les deux victimes. Il devra aussi se soumettre à un suivi pour auteur de violences conjugales. Le coupable sera par ailleurs contraint de s'acquitter de plus de 30 000 francs de frais.
Merci Sonia. Les parties ont 10 jours pour faire une annonce d'appel de ce jugement. Toujours sur le front de la justice, le tribunal fédéral prononce l'acquittement d'un journaliste de 20 minutes. Il avait dévoilé un élément du double meurtre des Verrières dans ses comptes rendus contre l'avis de la juge. Le journaliste avait été condamné en appel par le tribunal cantonal de Châtelois. Il est aujourd'hui acquitté par le TF selon le 20 minutes. Les juges de Montrepos s'appuient sur le fait que l'information avait déjà été donnée dans un article avant l'injonction de la juge. Ils estiment toutefois que la demande de la magistrate était légitime. La situation dans les centres fédéraux pour requérants d'asile s'améliore, mais il reste du travail à faire. Telle est la conclusion de la Commission nationale de prévention de la torture dans son rapport publié aujourd'hui. Les membres ont visité 8 lieux d'accueil entre janvier 2019 et juillet 2020. Premier constat, les conditions d'hébergement sont en général conformes aux droits humains et aux droits fondamentaux. L'accès pour les jeunes à un enseignement de base fait partie des points positifs, mais d'autres restent préoccupants, comme l'explique Daniel Bolomé, consultant en droits humains et membre de la commission.
La qualité de l'accueil, la prise en charge, les relations avec le personnel, ça se passe globalement bien. Mais moi, je suis extrêmement préoccupé par cette délégation sécuritaire à des entreprises privées et avec le déficit de formation qu'on a constaté chez certains des membres de ces sociétés-là pour une prise en charge qualitative des requérants d'asile. Donc là, je vois un point d'urgence à mettre en place, vraiment, que ces sociétés améliorent la formation de leur personnel.
La commission a d'ailleurs recueilli plusieurs témoignages concernant des cas où le personnel de sécurité est intervenu de manière jugée disproportionnée. Mais mieux former les agents ne suffit pas. Il faut aussi que les requérants connaissent leurs droits. Et ce n'est pas toujours le cas. On retrouve Daniel Bolomé.
Il y a des juristes qui sont là et qui peuvent participer à l'ensemble des entretiens. Mais ce qu'on a constaté, quand même, c'est un certain nombre de déficits de la part du personnel d'encadrement en matière d'information sur les possibilités qui sont offertes aux requérants. Et je prends l'exemple simplement des questions de plainte. Si un requérant estime qu'il a été maltraité, est-ce qu'il sait vraiment ou elle sait ce qu'il y a à faire, comment procéder ? Cette information-là, elle n'est pas toujours passée. Donc, il y a un gros potentiel d'amélioration en matière d'information des requérants d'asile qui sont ici chez nous.
Un dossier de notre correspondante à Berne, Hélène Yost, la nécessité de mieux prendre en charge les besoins psychiques des personnes qui séjournent dans les centres est aussi mise en lumière. La commission préconise d'établir un bilan dès leur arrivée pour les rediriger, si besoin, vers des services compétents. À l'étranger, l'acteur français Jean-Pierre Bacri est mort aujourd'hui d'un cancer. L'annonce a été faite par son agente. Cette figure du théâtre et du cinéma français aurait dû fêter ses 70 ans au mois de mai. Le comédien est connu pour avoir tourné dans de nombreux classiques comme Didier, Mes meilleurs copains ou encore La cité de la peur. Alexei Navalny appelle ses compatriotes à manifester. N'ayez pas peur, descendez dans la rue. Ce sont les propos tenus par l'opposant russe dans une vidéo postée sur YouTube aujourd'hui. Ces déclarations précèdent de quelques minutes la décision de la justice russe de maintenir Alexei Navalny en détention pour 30 jours pour avoir enfreint les conditions de sa condamnation à de la prison avec sursis.
Très bon début de soirée sur RTN, il est 18h13.
Sport. Les championnats du monde de hockey sur glace n'auront pas lieu en Biélorussie ce printemps. La Fédération internationale l'a annoncé aujourd'hui. Selon son communiqué, des questions sanitaires et sécuritaires sont à l'origine de cette décision. Le pays est en proie à une situation politique explosive. La Biélorussie devait organiser ce tournoi mondial conjointement avec la Lettonie. Le statut de la candidature lettonne sera également reconsidéré. La Fédération internationale de hockey sur glace étudie encore la possibilité d'organiser ces mondiaux dans un seul pays. Président de la fédération, le fribourgeois René Fazel a encore précisé que la Slovaquie et le Danemark étaient sur les rangs. L'équipe de Suisse de football jouera son premier match de l'année le 25 mars en Bulgarie. Une rencontre qui marquera le coup d'envoi des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La Nati disputera ensuite deux matchs à Saint-Gall. Tout d'abord la Lituanie le 28 mars, toujours en vue du Mondial. Et trois jours plus tard, la Finlande en match amical. Le premier entraînement en vue des deux descentes de Kitzbühel n'aura pas lieu demain en Coupe du Monde de ski alpin. Les prévisions météo médiocres ont poussé les organisateurs à le déplacer à mercredi. Trois courses sont prévues dans la station autrichienne, descente vendredi et samedi, ainsi qu'un Super G dimanche. Enfin, Ilan Pitier a échoué au pied du podium au championnat de Suisse de ski nordique. Le jeune fondeur des Hauts-Genevais s'est classé quatrième de la poursuite en style classique des moins de 18 ans. Dans la même catégorie d'âge, son camarade du ski club La Vue des Alpes, Léo Guenin, a pris le sixième rang de la course en style libre. Très belle soirée.
Et un coup d'œil à la météo avec un temps calme ce soir et cette nuit. Calme mais froid, moins 4 à 6 degrés attendus sur la région. Demain matin, des bancs de brouillard seront présents au pied du massif et dans les bas-vallons, du brouillard givrant, donc prudence sur les routes. Sinon, les conditions seront globalement ensoleillées malgré des passages nuageux. Il fera au maximum 4 à 6 degrés sur la région. Même type de temps encore mercredi, retour de précipitations jeudi en cours d'après-midi.